Actu SF, les podcasts.
Bien, bonjour. Merci d'être encore une fois très nombreux pour venir écouter nos auteurs et nos autrices et pour participer de cette grande transmission générale des connaissances et de l'esthétique de la science-fiction. La science-fiction, mais pas seulement, bien sûr, et c'est notamment un des points d'entrée dans ce que propose cette table ronde qui réunit quatre auteurs et autrices que je vous présenterai dans un deuxième temps. Le réalisme magique et le merveilleux scientifique. Deux notions tout à fait, qui vont donner lieu à des discussions et à des explorations et qui, dans les deux cas, renvoient à l'idée du merveilleux réintégré dans le cadre du réalisme. Et les littératures de l'imaginaire, au sens bien plus large, ont d'autres manières de faire dialoguer réalisme et merveilleux, mais nous allons nous intéresser à ces deux approches en particulier, réalisme magique et science-fiction, est prise ici comme source d'un merveilleux scientifique, ce qui n'est pas son seul horizon, mais ce merveilleux scientifique étant relié à ce qu'on a coutume d'appeler le sense of wonder, expression elle aussi finalement aussi mystérieuse que stimulante. Alors, une rapide définition du réalisme magique consiste à y voir une manière de jouer avec de subtils effets, de décalage dans le réel, en associant la représentation d'un cadre familier avec la présence d'éléments surnaturels, perçus comme surnaturels par le lecteur ou la lectrice, empruntés au folklore et au mythe ou déplaçant un peu la perspective. Mais pour autant, à l'intérieur même du récit, le quotidien magnifié ne bascule pas véritablement dans l'extraordinaire ou le surprenant, c'est intégré, assimilé, contrairement à ce qu'on peut trouver par exemple dans la fantasy urbaine ou le fantastique naturalisé. On verra si on revient sur ces notions-là, mais on a déjà beaucoup à faire. Le merveilleux scientifique de la science-fiction, en revanche, est pris dans une tension qui est un peu inverse. C'est-à-dire que pour produire ce sense of wonder dont je parlais, il fait appel à des moments de surprise, il puise dans un sublime technologique pour nous faire toucher l'infini de l'espace et du temps. Pourtant, pour mettre à notre portée ces objets grandioses, il faut aussi nous permettre de nous les approprier en pensée. Donc en fait, dans les deux cas, même si c'est selon des techniques et dans des perspectives différentes, il s'agit finalement de mettre à notre portée, de nous permettre d'assimiler des choses qui sont de l'ordre du merveilleux, mais qui deviennent des éléments du familier, en quelque sorte. Cela étant très souvent relié autour d'une préoccupation centrale, penser en fait notre humanité, penser ce que c'est qu'être humain, que de faire société, penser nos relations à notre univers, et univers qu'on peut comprendre dans des dimensions mythiques comme scientifiques. Alors pour explorer ces deux genres en miroir et ouvrir ces perspectives, nous allons écouter donc les interventions de ces quatre auteurs et autrices que je vais vous présenter maintenant. Alors, Ayavi Lake est une autrice dont les écrits reflètent plusieurs facettes de la francophonie entre le Sénégal, la France et le Québec où elle réside. Elle s'intéresse aux figures oubliées de l'histoire dans un contexte de migration. Elle interroge la place de la femme immigrante dans sa société. Son recueil de nouvelles, Le Marabout, dans lequel elle donne chair au quartier de Parc Extension, c'est plutôt un roman qu'un recueil de nouvelles, c'est plutôt presque ce qu'on appellerait un fix-up en science-fiction, c'est-à-dire une manière de mettre ensemble des textes pour leur faire prendre un sens global. Mais ce qui est aussi une façon de faire monde. Bon, je ne sais pas si on parlera du fix-up tout à l'heure, Hugo en étant aussi un pratiquant. Pardon, excusez-moi, je ne devrais pas entrer dans la discussion. Le Marabout a été lauréat du prix des Horizons Imaginaires en 2020. En 2022, elle a publié La Sarzaine, un roman qui explore la transmission à travers notamment les livres et les rencontres. On retrouve ces textes dans des revues et des collectifs comme les anthologies Futures, Canon, 11 déclarations d'amour littéraire, Selfie, autoportrait d'enfant du siècle ou encore Mortel. Et elle enseigne la littérature à Montréal. Alors, je précise, comme vous avez pu le voir, qu'en parallèle défilent plusieurs couvertures de nos auteurs et autrices que vous pourrez, associer à leur déclaration. Floriane Soula, elle est docteur en génie mécanique, autrice de science-fiction et de fantasy. Son premier roman à récit steampunk, Rouille, en 2018, a reçu le prix ActuSF de l'Uchronie, le prix Imaginal des lycéens et le prix Chrysalis, European Society of Science Fiction. C'était publié chez Scrinéo, et toujours chez Scrinéo, elle a ensuite publié Les Noces de la Renarde, plutôt fantasy, et un roman de space opéra, Les Oubliés de Lama, qui a reçu le prix des Utopiales 2022, donc les habitués l'auront reconnu, et vient de paraître Tonnerre après les ruines chez Argile. Pierre Bordage, entre nos deux autrices, écrivain français, bon, pilier du festival, hein, auteur de très nombreux romans et cycles de science-fiction et de fantasy, qui a été président des Utopiales 2000 à 2011. Parmi ses dernières parutions, signalons Cité chez La Talente, qui a terminé en 2022 une trilogie située dans le monde de Métro 2033. Également Le Dernier Vaisseau chez Scrinéo, un recueil de nouvelles au seuil Le Conte des Sages Passages. Et vient de paraître en 2023 un roman de fantasy paru au Diable Vauvert, La Porte des Rambards Sublimes. Il va également y avoir bientôt une réédition du cycle de Wang chez La Talente. Il est paru, d'accord. Donc il est paru, le cycle de Wang. Hugo Bellagamba, pour finir, maître de conférence en histoire du droit et des idées politiques à l'Université de Nice. Hugo Bellagamba écrit depuis plus de 20 ans nouvelles et romans qui se concentrent sur les liens entre histoire et imaginaire. Ses thématiques privilégiées sont l'utopie, l'uchronie, l'exploration spatiale. Et il a reçu en 2010 le prix Utopial pour Tancrède d'une uchronie. Et après L'origine des victoires en 2015, qui était un hommage aux femmes et une exploration de l'histoire provençale sous l'angle de la science-fiction, il a écrit avec Christophe Duniac le livre Songeur de monde, un roman graphique qui rend hommage à l'héritage des voyages extraordinaires de Jules Verne. Et son dernier roman, également en coécriture, cette fois-ci avec Jean Barret, Le monde de Julia, mêle post-apocalypse et philosophie. Alors, rien que dans l'énoncé des différentes perspectives ouvertes par nos auteurs et autrices et leurs œuvres, nous avons de très nombreux points d'entrée possibles dans cette question du rapport au merveilleux et du rapport de l'assimilation entre réalisme et merveilleux. Alors, j'aimerais commencer par une entrée un peu à votre goût, et ici, chacun, chacune pourra se déterminer en premier, en essayant de réfléchir aux logiques de transfiguration et de recomposition du monde telles que vous les pratiquez. Donc c'est bien votre pratique qui nous intéresse, même si bien sûr vos connaissances sont utiles aussi. Et ce qui m'intéresse, c'est finalement de mettre en cause un peu les définitions que j'ai avancées du merveilleux scientifique et du réalisme magique, pour voir un petit peu comment vous qualifieriez dans vos œuvres et dans vos lectures ce rapport au réel tel qu'il est instauré par la science-fiction ou le réalisme magique, ou les deux, si vous avez envie de parler des deux. Alors, je ne vais pas choisir un volontaire ou une volontaire. Je vous laisse vous déterminer. Qui a envie de parler du rapport au réel dans ses œuvres, réalisme magique ou science-fiction? Alors, Pierre.
Je connais, non. Alors, j'essaie au maximum de rendre mes romans crédibles. Dans la crédibilité, ce suspension of disbelief dont parlent les Américains, c'est-à-dire la suspension de l'incrédulité, on sait qu'on va raconter des bobards, enfin des choses qui ne sont pas vérées, qui ne sont pas scientifiques, qui ne sont pas réelles, mais on va faire en sorte que le lecteur les croit. Et c'est ça mon rapport au réel dans mes œuvres de fiction, c'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte que le lecteur croit à mon histoire. Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités. Il y a les personnages d'abord, qui sont très importants pour moi et qui peuvent aider à faire avaler la pilule, comme on dit. Il y a quelques éléments clés. Par exemple, quand j'ai fait Les Guerres du silence et que j'ai transmis le manuscrit à Pierre Michaud, il m'a fait un cours d'astronomie dans la marge. Pierre, ton système n'est pas possible parce que, oui, mais il est beau mon système. Oui, mais il n'est pas possible. Donc, tu vas essayer de trouver un système crédible. Parce qu'à partir du moment où on aborde la science connue, les rivages connus de la science, on est tenu de respecter ce que j'ai compris. Je me suis dit, oui, effectivement, si je ne veux pas perdre des lecteurs qui sont férus de science, déjà, qu'il y en a pas mal dans l'espèce opéra, il faut que je respecte la science telle qu'elle est connue. En revanche, je prends ma revanche là, d'ailleurs, c'est que quand on dépasse la science connue, on est libre d'inventer soi-même ces systèmes scientifiques sans tomber dans le farfelu. Je pense qu'il faut essayer d'éviter de tomber dans le farfelu. mais donner une sorte de touche techno-futuriste crédible, plus ou moins crédible. Et voilà, là, le spectateur est prêt à accepter, le lecteur est prêt à accepter le pari, parce que de toute façon, il a cru déjà à mes explications premières sur le système solaire que je devais faire de telle façon. Donc je cherche toujours un rapport de réalisme, une sorte de rapport de réalisme, parce que ce n'est pas réel, mais c'est je pense que pour étayer une construction imaginaire, il faut quand même quelques éléments de réel.
Floriane ?
Oui, je vais réagir à ce que tu dis, parce qu'en fait, je pense même que c'est nécessaire au lecteur d'avoir un point de repère par rapport à ce qu'il connaît. Parce que, en fait, ça me fait penser à Dune, où en fait, si on regarde bien chaque tome de Dune, à chaque fois, on se place dans des bonds toujours plus loin dans le temps, mais c'est des dizaines de milliers d'années à chaque fois dans le temps. Et en fait, quand on y pense, on ne peut pas se projeter 10 000 ans ou 30 000 ans. Enfin, en fait, ça n'a pas de sens pour nous. Et du coup, ce que Frank Herbert fait, c'est qu'à chaque fois, il réutilise en fait, des personnages ou des systèmes de société qui en fait, sont très proches de choses que nous, on connaît, les Touaregs, des choses comme ça. Et en fait, il déporte juste des choses connues ailleurs en les modifiant de manière crédible et réaliste. Mais tout est toujours basé sur des choses qu'on connaît déjà.
Oui, par exemple, l'écologie du ver des sables est superbement décrite. Bon, le ver des sables, ça n'existe pas. Enfin, je n'ai pas vu encore. Mais...
Non, mais... Mais c'est pas un personnage.
Oui, non, mais c'est que c'est un environnement qui est quand même très crédible. Donc
très crédible, Et, après, du coup, pour rebondir, je trouve que en fait, ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on écrit. Et c'est sûr que, par exemple, en science-fiction, comme tu dis, la suspension d'incrédulité, elle s'arrête quand même à un certain moment. Enfin, et encore, c'est marrant parce qu'on accepte de tous que les vaisseaux spatiaux, ça existe, alors que, spoiler, ça ne va pas arriver avant très, très, très longtemps, si ça arrive un jour, je vous le dis. C'est triste, mais c'est comme ça. Pourtant, on accepte tous, et y a, à moins que le roman parle de comment on construit des vaisseaux spatiaux, personne ne va demander comment marchent les vaisseaux spatiaux. C'est admis. Mais par contre, dans les mondes qu'on crée, on a quand même ce besoin d'avoir du crédible, du projetable, en fait, pour l'être humain. Mais par exemple, en pseudo-historique, et je pense à Rouille, par exemple, qui est en fait donc un thriller steampunk donc qui se passe en France en 1900. Quoi. Ma manière à moi là, de le faire, ça a été de me dire, OK, alors j'imagine qu'on a été sur la Lune, à la mode de Jules Verne, on l'a fait. Par contre, je veux que ma société et l'organisation de ma société soient historiquement véridiques pour aussi amener ce côté-là de comment ça se passait et qu'on se dise, ah ouais, c'est pas complètement inventé, je sais où je suis, je comprends les enjeux de mes personnages suivant les classes sociales dans lesquelles ils se passent, et ça me permet de raccrocher le lecteur à, il n'y a pas que du merveilleux, il se passe aussi des vraies choses avec des vrais personnages, et je les ramène comme ça dans un univers connu.
Et donc si je poursuis cette logique-là, l'idée c'est non pas seulement d'autoriser le merveilleux à partir de références au réel, mais véritablement de faire un choix et de faire en sorte de construire un tressage entre des éléments qui vont être des éléments qui confirment ce qu'on a déjà et d'autres qui vont au contraire aller un peu plus loin. Et d'une certaine façon, c'est un peu ce genre de tressage qu'on retrouve dans le réalisme magique tel que vous le pratiquez, Yavilek.
Oui, mais on le retrouve dans le réalisme magique, mais en même temps, là où je vais contredire un peu mes collègues, c'est que moi, par exemple, dans Le Marabout, je mets en scène... l'histoire se déroule à Parc Extension, qui est un quartier... assez pauvre de Montréal, puis un quartier où il y a beaucoup d'immigration, donc souvent un quartier de passage. Et moi, la façon dont j'utilise le réalisme magique, c'est que il faut de l'humour, en tout cas dans mon cas, parce que je vais toucher des choses qui sont souvent sensibles, et parce que, à mon avis, le réalisme magique me sert, moi, à remettre en question l'ordre établi. Donc, par exemple, je vais transformer un policier raciste en gorille, mais dans la transformation de ce gorille-là, de ce policier raciste en gorille, ben, y a tout un passage par une chamane d'origine autochtone. Donc oui, y a une réalité à laquelle les lecteurs peuvent se raccrocher, mais en même temps, cette transformation dont je parle, qui passe par le chamane, puis après qui va passer par le marabout d'origine africaine, est pas mal éloignée de la réalité de mon lectorat, qui est québécois, qui est occidental, et dont la réalité est éloignée de ça. Donc oui, il y a quelque chose auquel on se raccroche, mais en même temps... Ce réalisme magique-là, je veux dire, je ne tends pas la perche au lecteur. Le lecteur a sa part de travail à faire, à aller comprendre, OK, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal, c'est les Atikamekw, peuple autochtone du Québec. Donc, il y a un véritable travail du lecteur à faire.
pour autant, dans le marabout, et je te laisse bien sûr enchaîner, hein, pour autant, dans le marabout, ce qu'on trouve aussi, c'est l'évocation d'une société qui est et énormément d'éléments qui nous font comprendre ces moments de transformation comme eh bien, des reflets indirects de cette société qui est décrite par ailleurs et qui a des échos dans le réel de façon très, très nette.
Oui, les échos dans le réel sont indéniables. Là où la partie que je trouve peut-être qui peut sembler plus ardue ou en tout cas qui demande, puis je le dis parce que j'ai parlé avec des lecteurs qui ne connaissent pas forcément ce monde-là ou qui en sont plus éloignés, là où c'est plus difficile, c'est que je puise le réalisme magique dans ce que j'appelle les racines ou spirituelles ou de croyances de l'Afrique de l'Ouest ou de ces peuples autochtones. Donc là, ça devient... Il y a un travail à faire de la part du lecteur, c'est ce que je veux dire. Oui.
Hugo ?
Alors, moi, en fait, il n'y a rien de magique dans mes bouquins. Voilà, rien. Et je crois qu'en fait, en t'écoutant justement, je crois que la différence entre réalisme magique et merveilleux scientifique, c'est que toi, tu transformes. Moi, je suis plutôt dans la transposition. C'est-à-dire que pour moi, la science-fiction, elle est alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de magie dans la science-fiction. Hein. Il y a de la magie, mais dans mon rapport à la science-fiction, il y a... Une démarche rationnelle, une démarche logique, un logos. Et donc l'idée pour moi, c'est d'émerveiller en transposant des choses qui viennent de l'histoire, donc qui viennent d'une expérience culturelle. Donc là, évidemment, on a un socle commun qui est la culture, je pense, tous, avec l'effort demandé au lecteur. Mais moi, je travaille plutôt sur... Je vais sortir des éléments de leur cadre initial, de leur cadre culturel. Je vais les transposer sans les modifier dans des cadres science-fictionnels. Et j'attends du lecteur, non pas un effet de reconnaissance, de dire « Ah, mais je reconnais que c'est le système romain ou que c'est le système du procès, par exemple, en Grèce », mais de dire « Waouh, ce système est fou, c'est un système inattendu ». Et en fait, l'effet ensuite, c'est de se dire « En fait, non, c'est nourri de l'histoire ». Et c'est en fait, moi, la seule façon que j'ai de travailler, c'est de vous remettre en contact avec des éléments de culture. Et donc, je transpose des éléments de culture historique. Moi, je suis historien du droit et des idées politiques. Donc, je vais puiser ça dans le monde de Julia avec Jean Barré. C'est exactement ce qu'on a fait. Et je vais les mettre dans des cadres qui ne sont pas les leurs. Comme si je changeais finalement leur place dans la pièce. Mais ça reste fondamentalement logique et rationnel. Je ne fais pas appel à la magie. Et je n'essaye pas de remettre en question le rapport rationnel au monde, en fait. Je reste vraiment dans le côté rationnel. Et je crois que si je regarde tout ce que j'ai écrit, je ne vois pas de... Même par exemple dans le Double corps du roi avec Thomas D, on est complètement dans la transposition de la logique rationnelle de la théorie des deux corps du roi de Kantorowicz. Et même si ça semble magique... Même s'il y a une dimension de pouvoir magique, en fait, derrière, c'est vraiment une transposition. Donc moi, je suis vraiment du côté, vraiment, je pense, hein, du côté du merveilleux scientifique. Et je suis assez fasciné parce que le réalisme magique, ce n'est pas du tout ma façon d'écrire. Et pour moi, le réalisme magique, c'est surtout une littérature peut-être à part entière à laquelle la science-fiction peut se greffer, mais qui est quand même bien différente du merveilleux scientifique, bien, bien distincte.
Quelqu'un comme Sabrina Calvo, par exemple, dans Toxoplasma, marie bien science-fiction et réalisme magique. D'ailleurs, elle parle de Montréal. Peut-être qu'il y a un filon de ce point de vue-là. Je crois que Pierre voulait réagir.
Oui, par rapport à ce que tu disais, l'auteur de science-fiction se retrouve donc passé le même problème, c'est de faire admettre des schémas différents à des lecteurs. Et donc, surtout dans l'espèce opéra, on va découvrir des civilisations inconnues, des planètes inconnues, c'est-à-dire que le lecteur peut perdre pied, l'auteur aussi d'ailleurs, en arrivant sur ces endroits inconnus et devant ces espèces inconnues. Donc il y a aussi, il faut faire avaler ça, quoi. Il faut que le lecteur fasse un chemin lui-même pour réussir à comprendre qu'il y a des extraterrestres en face, croire aux extraterrestres en face, voir des paysages incroyables et croire à ces paysages incroyables. Et donc, le travail, c'est de la même façon qu'on procède. Je pense qu'on puise des éléments réalistes pour donner de la crédibilité à l'ensemble. Et là, par-dessus ça, après, il faut faire passer tout ce qui est non scientifique, non rationnel.
Alors, c'est sans doute ma manière d'orienter la question qui nous entraîne là-dedans. Mais de cette façon, j'ai l'impression qu'on... on se concentre beaucoup là sur la question de comment faire admettre ces choses-là. Mais finalement, qu'est-ce que vous diriez dans votre pratique ou dans vos lectures, dans ce que vous appréciez, qu'est-ce qui pour vous est une manière d'obtenir un effet un peu waouh, un effet d'émerveillement ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on, justement, on transporte ? Parce que justement, il y a cet accrochage au réel, mais c'est aussi, on ne lit pas du réalisme magique ou de la science-fiction uniquement pour retrouver du familier. Qu'est-ce qui porte
l'effet, moi, ce que j'appelle, c'est l'effet toboggan. C'est-à-dire, on est dans une grande montagne russe et d'un seul coup, on plonge. Ça me passionne parce que quand j'étais petit, je lisais beaucoup de mythologie et j'avais cet effet toboggan. C'est-à-dire, d'un seul coup, je me retrouvais transporté en Grèce, antique et tout ça. Et moi, j'adorais cet effet-là, enfin, d'être décoiffé. Quoi. D'ailleurs, je suis tellement décoiffé que j'ai plus de cheveux. Et quand en tant qu'auteur, en lisant Dune, dont tu parlais, je sais plus comment on appelle ça, là, le petit paragraphe de la princesse Irilyn au début.
Péléoptère, là, où je sais plus très bien. Oui.
Ça nous transporte tout de suite. On est tout de suite transporté. Donc, effectivement, il y a des lecteurs qui refusent de perdre pied tout de suite. Donc, on peut leur tendre des passerelles pour qu'ils puissent accéder. Mais il y a des gens qui disent non, mais de toute façon, c'est pas réel. Moi, hors une littérature. Quelle qu'elle soit, n'est pas réelle. Hein, mais bon, bref. Donc cet effet-là, moi, je le recherche en tant qu'auteur. Et j'essaie de plonger, de faire un effet toboggan, tout en tendant une passerelle peut-être à des lecteurs qui seraient moins habitués, pour donner ce vertige. Et ce vertige, c'est ce qui fait le charme, enfin, un des charmes premiers de l'imaginaire. C'est-à-dire, c'est décoller du réel et avoir cet effet de toboggan qui nous transporte. Quoi.
Floriane ?
Moi, j'aimais bien la métaphore du tissage que tu as utilisée. Parce qu'en fait, en y réfléchissant, je m'y retrouve beaucoup. En fait, j'aime bien utiliser des choses connues et les mélanger petit à petit avec des choses différentes, de plus en plus différentes. Et tout d'un coup, hop, en fait, on bascule. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire dans le premier chapitre des Oubliés de la main. Où en fait, le premier paragraphe, je dis qu'on est dans une décharge et je la décris comme pourrait être une casse de voiture sur Terre, quoi, où les gens font des choses et tout. Et à un moment, je dis, ah mais en fait, on est dans l'espace. Et ils sont dehors avec des scaphandres et ils sont. Et en fait, elle lève les yeux et elle voit Jupiter et on comprend à ce moment-là que le personnage n'est pas du tout sur Terre. Et je trouvais que ça avait cet effet un peu toboggan où on se dit, ah ok, elle est dans une décharge. Et en fait, je tisse à mon environnement connu pour le lecteur, plein de petits détails où il doit se dire bon, c'est bizarre quand même de quoi elle parle, pourquoi elle me parle de laser, c'est vraiment étrange. Et tout d'un coup, je lâche la bride et hop, je lui dis voilà, en fait, c'est dans l'espace. Et j'aime bien ce procédé de tisser comme ça en amenant au début d'un point de départ connu, en tissant cette étrangeté jusqu'à ce que hop, c'est bon, maintenant je donne tout, tu peux basculer complètement et voici l'univers, voici ce qui va se passer et ce petit effet waouh de ah oui, je m'y attendais pas, je me suis fait avoir et en même temps, ça fait pas trop sorti du chapeau et en gros, le lecteur est déjà entre guillemets acquis à cet univers-là parce qu'il n'a pas été complètement perdu tout de suite et il peut accepter qu'en fait, il se passe d'autres choses derrière.
Donc une logique de préparation et d'effet de surprise, ouais. De basculement. Et
moi, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de romans qui, tu sais, on a l'impression de rentrer et qui manque 5 chapitres et t'es vraiment jeté dans le. Et ça, c'est vraiment, ça marche ou ça marche pas. Soit t'es dans le bon état d'esprit et tu rentres tout de suite dedans et tu fais OK super. Soit tu dis oh là là, mais en fait ça fait 30 pages que je lis, je comprends rien, j'arrête. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'arrêter, de reprendre plus tard, mais des fois ça marche pas forcément. Et c'est vrai que c'est difficile de toute façon on peut pas plaire à tout le monde quoi, enfin, mais c'est difficile un début de roman et je trouve que c'est plus facile de l'amener même si ça peut être assez abrupt parce qu'au final on, par exemple dans Les Oubliés on comprend qu'on est sur Jupiter au bout de 2 pages quoi. Mais je laisse 2 pages pour préparer le lecteur et pour lui dire ok voilà ce qui va se passer mais maintenant on y va quoi. J'ai fait pleurer un enfant avec mon histoire. Pardon.
L'approuve à 100%. Je
voulais pas.
Moi, je pensais au choc de la non-identification et la manière dont j'aime bien le pratiquer, c'est de, ben, c'est toujours pareil, hein, je vais t'embêter, hein, mais je fais croire que tout va bien, qu'on est dans un monde normal et donc on est dans un monde finalement pas du tout de science-fiction. Et, mais finalement, il y a un détail qui montre qu'en fait, on n'y est pas du tout. Alors, je prends deux exemples. Dans L'Apopis républicain, qui est une des novellas qui fait partie de la Cité du Soleil, le recueil, et dans Quirites, qui était une novella que j'ai écrite pour Bifrost, dans les deux cas, ça part de choses très connues, donc l'Empire napoléonien ou tout simplement les cadres de fonctionnement de la République romaine. Donc, on a l'impression qu'on est dans quelque chose d'historique. Et en réalité, il y a un petit détail qui fait que brusquement, on est dans un monde autre. Par exemple, dans L'Apopis républicain, le personnage qu'on voit au début et qui est un membre finalement de l'Empire qui se regarde dans le reflet d'un conteneur et qui annonce qu'il va devoir tuer le prince héritier de l'Empire, l'Aiglon. Et on comprend deux lignes après qu'en fait, il est à bord d'un vaisseau spatial dans un futur où Titan a été conquis par un empire napoléonien qui ne s'est pas effondré. Et donc d'abord, on a simplement le projet d'un assassinat politique, que donc tout à fait qui pourrait être dans n'importe quel roman historique, et la ligne après, on comprend qu'on est dans un vaisseau spatial dans le futur. Et ce que j'aime faire, c'est ce lien entre ce qui est facilement reconnaissable comme étant historique, et finalement historique tout simplement de façon classique, et un élément science-fiction. Et dans Quirites, qui est une nouvelle qui n'a jamais été reprise nulle part, qui est dans un vieux Bifrost, on est pareil dans une situation du début de l'histoire de Rome, à l'époque de la royauté romaine, avant même le début de la République. Et cette situation-là, et au départ, semble très historique. Et juste quelques lignes après, je n'ai plus en tête exactement le déclencheur, mais c'est vraiment dans les premières lignes, on s'aperçoit que là aussi, on n'est pas du tout dans un passé historique, pas du tout dans un élément historique, on est dans un futur lointain où finalement Rome n'a servi que de modèle à une société un peu renfermée sur elle-même et qui essaye de survivre parce que la Terre est en friche et qu'elle ne peut plus revenir sur Terre et donc elle est enfermée dans une station orbitale. Et donc, alors pour moi, c'est pas du réalisme magique, c'est justement du merveilleux scientifique, c'est-à-dire le fait de mettre, alors scientifique au sens sciences sociales, hein, évidemment, moi, je fais peine d'un vieux scientifique aux sciences physiques du terme, mais c'est vraiment les sciences sociales, c'est-à-dire c'est des éléments de sciences sociales, de structures de société très connues. Je n'invente pas de nouvelles structures de société, mais je les réorganise avec un cadre science-fictif. Et bien sûr, parce qu'il y a un défi derrière, hein, pour l'auteur, il faut être cohérent. Si cet élément de sciences sociales ou de modèle institutionnel est dans un cadre science-fictif, il ne faut pas que le cadre science-fictif soit juste un décor. Donc il faut que derrière, ce soit justifié par l'histoire. Et cette justification, elle vient un peu plus tard, évidemment. Donc l'idée, c'est quand même de déstabiliser le lecteur et de montrer qu'en fait, ce qui pourrait sembler une juxtaposition un peu folle et finalement pas cohérente, en fait, est parfaitement, s'explique parfaitement. C'est souvent l'Uchronie, hein, voilà, c'est souvent l'Uchronie qui en fait se révèle comme étant « Ah d'accord, c'est donc pour ça qu'il y a tel ou tel élément dans le futur ».
Mais alors, finalement, cette logique de préparation et de rupture, c'est quand même une technique qui intervient dans le réalisme magique aussi. C'est une des manières de procéder pour déstabiliser, rééquilibrer, enfin, jouer un peu avec les attentes du lecteur ou de la lectrice.
Oui, complètement. Moi, en tout cas, dans ma façon de travailler, c'est sûr que je prépare le lecteur ou la lectrice. Mais j'aimerais revenir sur un point, c'est par rapport à la notion de magie. La notion de réalisme magique, puis en rencontrant d'autres auteurs qui ne sont pas forcément, je ne sais pas comment le dire là, mais mettons moi, je suis originaire du Sénégal, puis j'ai été formée au Sénégal, j'ai étudié en France, je suis arrivée au Québec, puis j'ai écrit. Puis la notion de réalisme magique, tout à l'heure on parlait de magique, mais ce que je mets en scène dans mes romans ou dans mes fictions, ne représente pas de la magie pour moi. Dans le sens, puis je vais essayer de m'expliquer, quand je fais intervenir le marabout, qui, dans la Sarzène aussi, qui va prédire l'avenir de Koumba Fleur, qui va devenir première ministre du Québec, la notion de communiquer avec les ancêtres ou la notion d'avoir un dialogue avec ceux qui sont partis, c'est pas de la magie. Je veux dire, dans ma réalité socioculturelle, c'est pas de la magie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc même l'appellation de réalisme magique, puis pour en avoir discuté avec des auteurs autochtones ou d'autres auteurs qui écrivent dans ce genre-là, pose problème. Puis je ne pourrais pas donner de définition, là, je n'ai pas cette prétention, mais pose problème parce que c'est le point de vue un peu occidental qui est « je ne comprends pas ce que c'est, je ne comprends pas ce qui se passe, donc c'est de la magie ». Mais dans mon monde à moi, ce n'est pas de la magie. Ça touche à la spiritualité, ça touche à d'autres termes qu'on pourrait nommer. Je suis complètement sortie du sujet, mais en tout cas, je voulais placer ça. Voilà.
Non, c'est important aussi parce qu'en fait, enfin, tu voulais réagir. Non, je t'en prie, vas-y. Réagis.
Mais en fait, merci parce que je pensais que c'était ça justement. Et moi, je voulais pas parler de magie au sens de système de magie, mais au sens d'enchantement du monde. Et en fait, cet enchantement du monde vu de l'intérieur de toutes les cultures, de quelques cultures que ce soit, il a un sens très cohérent. Il est au fond, du point de vue de ceux qui sont dans ce réalisme magique, il est rationnel en fait complètement. Et c'est exactement comme la divination à Rome en fait, sur laquelle moi j'ai travaillé, et où effectivement, pour les Romains, cette divination, cette consultation des dieux, elle n'a rien de magique. C'est une consultation des dieux très, très cohérente, très structurelle, pas du tout surprenante ou inattendue, qui donne les résultats qui sont cohérents avec la situation. Et effectivement, c'est peut-être le mot de magique qui est peut-être mal... on pourrait presque parler, moi je te parlerais de réalisme divinatoire, mais je m'y reconnaîtrais pour le compte dans cette situation.
Ici, on est dans un problème aussi d'implément de désignation, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le réalisme magique vient du fait que c'est quelque chose qui a été développé au départ beaucoup dans la littérature d'Amérique du Sud, et dans cette perspective-là, le magique faisait un oxymore avec le réalisme contre une logique, alors que du point de vue de la science-fiction, on entend beaucoup magique en le plaçant du côté de la fantasy en fait. Et finalement, le réalisme magique ne fonctionne pas tout à fait dans ce système-là. Et à cet égard, Pierre, finalement, ce rapport à un certain, un possible mystique du monde, c'est un petit peu quelque chose qui me semble que tu explores dans un certain nombre de tes romans. Je pense à l'Évangile du Serpent. On est dans quelque chose qui travaille avec...
Si je vous disais ce que j'explore vraiment, vous seriez atterrés. J'explore le rapport de l'esprit et de la matière. L'esprit-matière qui domine. Est-ce que c'est un couple? Est-ce que c'est des ennemis? Est-ce qu'ils s'excluent mutuellement? Ça ne m'intéresse pas. La pensée matérialiste ne m'intéresse pas trop. La pensée spiritualiste un peu plus, quoique purement spiritualiste non plus, parce qu'il y a un monde de matière. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de discerner le rapport de ce qu'il y a de ce que l'esprit et la matière s'apportent. Je pense que la matière n'existe pas si l'esprit n'existe pas. Je pense que la matière n'existe pas si on ne porte pas un regard dessus. Je pense que le regard subjectif est le seul. J'ai l'air de... c'est pas des dogmes, c'est juste des choses que j'explore. Mais je vais dans ce sens-là. Le seul justificatif de la matière, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui porte un regard dessus. Donc voilà, je suis très loin de... Évidemment, c'est pas de la magie à ce niveau-là. C'est juste de... ce couple-là, esprit-matière, c'est ça qui me fascine. La pensée matérialiste ne m'intéressant pas, je la trouve finie avant d'être commencée. J'essaie de lui mettre une compagne, en quelque sorte, ou un compagnon qui lui donne son sens à la matière. Voilà, donc... Je ne sais pas où j'en suis du réalisme magique et tout ça, mais je travaille en fond par rapport à mes bouquins. Je travaille cette thématique en permanence.
Pour rebondir, je pense qu'on on pointe du doigt quelque chose, c'est que la science-fiction et l'imaginaire que nous représentons tous et vous tous dans la salle nous interrogent sur le rapport qu'on a à la raison, encore une fois. C'est-à-dire, tu sais, Michel Foucault, il dit à un moment donné, on est prisonnier du rationalisme. Et tu parles de pensée matérialiste. Le rationalisme, ce n'est pas la raison. Le rationalisme, c'est une idéologie occidentale qui, à partir de la notion de raison, qui est une notion en fait, qu'on peut rattacher à plein de cultures, mais en particulier au christianisme, hein, la raison et qui permet d'interroger la réalité du monde et Dieu, etc. Parce que Dieu et la raison ne sont pas du tout incompatibles au niveau historique. Ce rationalisme, il est né au XIXe siècle, en fait. Et quand Michel Foucault, le philosophe français, dit « il ne faut pas faire le procès de la raison, mais du rationalisme », c'est une invitation à penser la rationalité de façon plus ouverte. Et en fait, peut-être que tout ce que nous représentons ici, c'est des explorations de rationalité, pas forcément alternatives ou incompatibles les unes entre autres, les unes avec les autres, mais des rationalités qui ne sont pas prisonnières d'un espèce de dogme rationaliste qui consiste à dire la raison c'est ça, c'est comme ça qu'il faut la penser, c'est pas autrement. Et ça, je trouve que la science-fiction permet de le faire. Et du coup, s'il fallait trouver peut-être un lien entre... les différentes rationalités, c'est-à-dire la rationalité interne du réalisme magique et le merveilleux scientifique qui est plus matérialiste quand même. Faut quand même, ce merveilleux scientifique, il est né au 19e siècle avec les grands auteurs européens qui pensaient justement qu'il fallait en passer par la rationalité à l'occidental. Et ben peut-être que la science-fiction, elle réouvre notre pratique des rationalités. Et ça, j'aime bien cette idée qui pourrait peut-être réconcilier les deux, c'est-à-dire le réalisme magique, comme tu l'as très bien dit, de l'intérieur. C'est pas magique, c'est une forme de rationalité simplement. C'est pas le rationalisme traditionnel dans lequel on est un peu enfermé. Aujourd'hui encore, moi, quand j'enseigne à mes étudiants l'histoire des idées politiques, je cite Michel Foucault et je dis il faut sortir un peu du modèle rationaliste. Ça fait 2 siècles qu'on est dedans. Peut-être que ce modèle-là, il est périmé, il est trop matérialiste. On a besoin de sens. Et qui dit chercher du sens, dit pas sortir de la raison, dit mettre la raison au travail pour trouver d'autres sens à la société, à ce que nous faisons, à d'autres possibilités. Et de ce point de vue-là, Frank Herbert, il a fait exactement ça. Il nous propose des rationalités différentes qui ne sont pas dans le modèle stricto sensu occidental. Et peut-être ça, c'est peut-être une piste. Peut-être une piste.
Il y a aussi un horizon mystique dans un certain nombre d'écrits de science-fiction. Frank Herbert flirte beaucoup avec le mystique. Florian.
Moi, je suis d'accord. En fait, enfin, j'écoute tout ce que vous dites. Je n'ai pas autant d'expérience que vous, mais je réfléchis. Et je me dis, en fait... Enfin, ce que tu disais, c'était hyper intéressant en fait sur qu'est-ce qui est de la magie ou pas et ce mot en fait qui est occidental de réalisme magique quoi. Parce que par exemple dans ma famille aussi, on croit à des choses et tout le monde se moque de nous. Mais pour nous, c'est une vérité que le mauvais œil ça existe et qu'on va me le jeter, tu vois. Enfin, c'est normal quoi. Enfin, j'ai été élevée comme ça. Et pourtant, c'est des choses qu'on va retrouver dans des livres, enfin des romans qui exploitent ça comme du réalisme magique, alors que pour plein de gens, c'est juste la vie quoi qui est faite comme ça. Mais d'un autre côté, je me dis que je pense pas qu'il y ait une incompatibilité entre la science et cette magie-là du quotidien. Parce qu'en fait, par exemple, non mais c'est très terre à terre, mais je connais énormément de gens qui sont des scientifiques qui sont croyants, vraiment pratiquants. Et tu pourrais te dire, mais en fait, comment tu peux faire des sciences, de la matière, par exemple, vraiment, et dire que Dieu existe? Mais en fait, pourquoi ce serait incompatible? Il n'y a pas de rationalité dans la croyance. C'est pas parce que... Enfin, il n'y a pas d'incompatibilité entre ce qu'on sait et ce qu'on croit, quoi. Et je pense qu'en fait, il y a plein d'œuvres qui font ça. Dune le fait très bien. Et en fait, je me suis rendu compte que je le fais aussi. Et notamment dans Les Oubliés de Lama. Donc il y a toute cette histoire qui est en fait de la science-fiction vraiment quand même très technologique. Mais ils ont cette croyance que Jupiter est vivante. Et qu'elle refuse de se laisser approcher. Et que c'est pas qu'on n'est pas assez bon pour y aller. C'est que c'est elle qui nous oppose une résistance. Et en fait, ça c'est complètement con, en fin de compte. D'un point de vue scientifique, une planète n'a pas de pensée. Mais en fait, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? En fait, je ne sais pas qui a dit ça, mais en fait, qui disait que la magie, c'est juste de la science pas expliquée.
Et, Arthur C. Clarke.
Voilà. En plus, je l'ai cité, alors genre, la honte. Bref, non, voilà. Mais en fait, c'est peut-être juste ça. C'est peut-être juste qu'il y a des niveaux de compréhension qui ne nous sont pas encore accessibles. Et c'est juste que pour l'instant, on n'a pas ce, enfin, on le comprend pas. Mais c'est pas parce qu'on comprend pas que c'est pas scientifique ou que c'est pas norme. Enfin, c'est pas de la magie. C'est juste que c'est là. Et tout n'est pas explicable. Et aujourd'hui, la science, ce n'est que prouver que c'est possible jusqu'à ce qu'on puisse prouver qu'on a tort. Toutes nos lois de physique et de science, c'est ça. On n'a fait que prouver des choses jusqu'à ce qu'on puisse prouver qu'en fait, non, ça ne marche pas. Et on établit un nouveau modèle qui fonctionne jusqu'à ce qu'on trouve une raison qui dise que ah ben non, ça ne marche pas. Et du coup, on réétablit un modèle et on avance en se trompant, en fait. Et on avance en apprenant. Et je pense que... En fait, ce réalisme magique-là, il n'est pas du tout incompatible avec de la hard science ou des choses comme ça, parce qu'on en trouve partout au quotidien. Il y a plein de choses inexplicables et ça fait une richesse, en fait, aussi, de pouvoir mélanger tout ça. Voilà, j'ai trop parlé.
Non, au contraire, merci. Et cette question, enfin, cette fameuse citation d'Arthur C. Clarke qui est souvent évoquée sur les rapports, enfin, la façon dont toute science suffisamment avancée serait impossible à distinguer de la magie, c'est quelque chose qui est très réversible. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien utilisé comme argument pour dire, mais finalement, ce que nous ne comprenons pas actuellement peut être rationnellement explicable à terme et donc fait partie de notre monde, qu'inversement, une façon de dire, c'est par insuffisance de perception et donc il faut au contraire ne pas désarmer notre approche rationnelle. Mais alors de ce point de vue là, ce qui s'établit, ce qui se dégage je trouve dans ces discussions, c'est que ce rapport au réel dont on est parti, qui était un rapport finalement relativement trivial on l'a compris, posé ainsi, c'était aussi moi qui l'ai fait, je le reconnais, on l'a posé un petit peu comme un rapport à la matière. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'il y a de concret Et petit à petit, s'est dégagée cette idée de cette confrontation des deux perspectives, s'est dégagée l'idée que ce qui fait merveille, c'est ce qui surprend, ce qui est placé différemment, mais ce qui, d'une certaine façon, fait retour sur une autre dimension du monde. Et cette autre dimension, ce rapport au monde, je propose qu'on le regarde du point de vue de la, en le posant comme un questionnement humain. C'est-à-dire qu'il me semble qu'une des choses qui intervient dans les différentes œuvres qu'on a évoquées, c'est le fait que ce qui crée l'enjeu véritablement de cet émerveillement et de cette découverte, c'est le regard que nous jetons sur une réalité humaine, le plus souvent. Et donc, dans quelle mesure, diriez-vous, puis là, je lâche un peu ça et vous faites absolument ce que vous voulez avec ce que je propose ici, mais dans quelle mesure est-ce que ce rapport de décalage, de surprise, c'est un moyen pour vous, dans vos écrits, de permettre de jeter un regard nouveau, un regard renouvelé sur les relations humaines. Dans quelle mesure est-ce que c'est une manière d'interroger le monde humain tel qu'il est actuellement ou tel qu'il pourrait être? C'est une question très large. Vous en faites ce que vous voulez.
Moi, la littérature, déjà, enfin, pour moi, c'est une exploration de l'humain. Un auteur, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite, normalement, ou de limite rationnelle ou spirituel, ou ce qu'on veut, quelconque limite que ce soit, mais c'est quelqu'un qui peut aller puiser profondément dans le potentiel humain pour ramener à la poignée d'humanité à la surface en disant, tiens, voilà ce que ça peut être aussi l'humain, etc. Donc, mon expérience d'écriture me dit que je suis en train d'explorer l'humain, toutes les facettes de l'humain, parce que je ne suis pas encore humain. Je n'ai pas l'impression d'être encore humain. Si j'étais humain, il me semble que je comprendrais le monde un peu différemment. J'ai des limites. Et toutes ces limites font que je ne suis pas vraiment humain. Donc, j'essaie de dépasser ces limites pour observer le monde de façon différente. Peut-être comprendre les chamans, par exemple. Parce que le chamanisme m'intéresse prodigieusement, parce que le rapport à la matière, l'esprit-matière, il est quand même pleinement exprimé dans le chamanisme, ou dans d'autres rituels, pratiques, même des rebouteux de chez nous, ou des choses comme ça font des choses un peu extraordinaires aussi. Et j'essaie vraiment d'aller au plus profond de l'humain. Et c'est peut-être ce que nous permet aussi la rencontre avec l'autre, l'extraterrestre, bien qu'on ne puisse plus vraiment l'appeler l'extraterrestre, parce qu'on suppose qu'on est sorti de la Terre depuis longtemps, on va dire l'espèce de vie ni humaine ni animale, l'espèce ni humaine ni animale, tout simplement, l'ENA. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Qu'est-ce qu'elle va nous apprendre sur nous-mêmes? C'est toujours un apprentissage sur nous-mêmes, le miroir. L'autre, c'est un miroir qui nous apprend. On le repousse, on le rejette, on l'accepte. Et notre réaction nous apprend toujours. C'est toujours par rapport à soi. On a un regard subjectif permanent. On part toujours de son centre, de ce qu'on est, avec ses racines historiques, familiales, enfin, et tout ce qu'on a. Et comment on peut sortir de ces conditionnements pour être quelqu'un de suffisamment libre pour explorer le monde de façon efficace. Voilà, c'est ça qui me...
Oui, et je trouve qu'on retrouve exactement cette dynamique de défigement dans énormément de tes romans, c'est-à-dire cette manière de dire ce qu'on croit comme être le réel est en fait quelque chose à réinterroger en permanence. Et la récompense, pour les personnages comme pour tes lecteurs et lectrices, c'est justement ces moments d'émerveillement, c'est-à-dire ces moments où les personnages se surpassent, accèdent à des capacités ou à des révélations particulières. Donc il y a vraiment cette dynamique de refuser de se laisser enfermer dans une conception toute faite de l'humain.
Le prison mental, ce que j'appelle le prêt-à-penser. Là, on voit actuellement, dans le monde, la crise que traverse le monde, on voit que les gens sont prêts à se réfugier dans le prêt-à-penser. C'est pour une sorte de forme de sécurité. Évidemment, je pense que c'est une grosse erreur.
Mais alors, ce rapport à la question de l'humain, en fait, c'est un rapport aussi personnel. C'est-à-dire chacun, chacune d'entre vous entre dans ce questionnement d'une façon différente.
Mais en fait, vous me direz si je me trompe, mais je pense que de toute façon, on ne peut pas écrire sur ce qu'on ne connaît pas. Et en tant qu'humain, bah, on connaît au moins un humain, c'est nous. Et ça me semble logique que c'est le lien, quoi. C'est le vrai lien, c'est l'humain. Et on ne fait qu'écrire que sur ce qu'on connaît. On fait écrire sur nous, hein, tout le temps. Je pense que... Parce que tu dis que tu ne te sens pas humain. Moi, je trouve
pleinement humain.
Pas pleinement humain. Moi, je trouve que c'est fascinant de se dire qu'on est chacun une individualité unique dans le monde et qu'on est à la fois complètement unique et complètement lié à plein d'autres personnes à travers plein de liens différents. Et tu vois, les liens que je vais avoir avec toi vont être différents de ceux que je vais avoir avec toi, avec Simon, enfin avec d'autres. Et en même temps, on est toutes ces personnes avec toutes ces choses qui font qu'on peut être lié à plein d'autres personnes et que suivant ce qu'on va vivre ou les gens qu'on va rencontrer, on ne va pas créer toujours, enfin c'est toujours un lien qui est différent, ça veut dire qu'en fait on est unique et infini en même temps, et c'est ça qui est hyper intéressant à explorer, c'est cette pluralité d'une seule personne dans un univers qui est beaucoup plus grand pour nous, quoi.
Je pense que l'exercice de l'écriture est un exercice de solitude absolue.
Moi je suis pas d'accord.
Mais pas pour moi.
Juste pour rebondir, parce que c'est vraiment génial de prendre conscience de ça, en fait, c'est que moi je sais maintenant, enfin je sais. Pourquoi j'aime tant la science-fiction ? C'est parce que la science-fiction, c'est l'expression de personnalité. C'est-à-dire tous les auteurs et les autrices de science-fiction s'engagent dans les créations d'univers imaginaires dont on sait très bien qu'ils ne sont pas objectifs. Ils ne peuvent pas l'être. Donc du coup, ce qui transparaît et ce qui est le plus touchant, c'est leur personnalité, comment elle s'exprime à travers ça. Charles Renouvier, tu sais, le fondateur de l'Uchronie, c'était aussi un philosophe qui avait développé ce qu'il appelait à l'époque, alors maintenant c'est très obsolète, hein, le personnalisme. Le personnalisme, c'était quoi ? C'était de dire que le rapport qu'on a au monde est beau avant tout parce qu'il est l'expression d'une personnalité. C'est-à-dire il est la façon dont un individu particulier va dire son regard sur le monde. Et dans la science-fiction, il y a cette tellement grande liberté, finalement. Pour ça, moi, j'ai essayé de sortir de la science-fiction hein, plusieurs fois, mais je on ne peut pas en sortir parce qu'il n'y a que là où je trouve qu'on se donne le droit de dire « je sais que j'écris des choses subjectives, je sais que c'est des choses qui peuvent être remises en cause maintes et maintes fois, mais je vais le faire d'une façon réaliste, mais c'est un réalisme personnel. » Voilà, peut-être c'est la meilleure façon que je pourrais l'exprimer. Et du coup, c'est l'expression d'une personnalité qui compte le plus. Et au final, pourquoi chercher l'objectivité ? Alors c'est beau ce que tu dis, mais ça me paraît fou. Comment tu veux atteindre une espèce de... Comment tu veux sortir de tes repères, de tes biais cognitifs, de tes repères culturels ? Même avec un effort surhumain d'abstraction, tu restes quand même englué dans ton époque, dans ta langue, dans ton environnement, dans tes croyances. Et donc, c'est beau de le tenter. Mais je me dis que finalement, moi, plus je vieillis, plus je me dis dans l'autre sens, je me dis, mais j'assume. Hein. J'assume complètement ma personnalité. J'assume complètement ce que je crois être la science-fiction, qui est ma science-fiction. Et dans le dictionnaire utopique, au final, c'est un dictionnaire amoureux. Hein. C'est pas la science-fiction de tout le monde. C'est mon regard à moi sur la science-fiction. Et bon, j'essaie de vous faire croire qu'il est légitime et qu'il y a des éléments qui le justifient. Mais fondamentalement, j'exprime ma façon à moi de voir la science-fiction. Et je crois qu'au final, être un auteur ou une autrice, c'est aussi assumer ça. Alors, ce que tu dis, c'est un projet... c'est un peu prométhéen.
Oui, j'assume.
Mais voilà. Mais moi, en fait, plus je vieillis, au contraire, plus je me dis, pourquoi après tout vouloir l'objectivité, puisqu'on peut pas l'atteindre.
Non, mais je cherche pas l'objectivité.
Donc, ou alors, oui, voilà, j'ai mal compris.
Oui, je cherche une compréhension meilleure du monde. C'est
voilà, une meilleure compréhension, mais ouais.
Mais alors, cette formule de réalisme personnalisé me semble quand même pouvoir inclure un au-delà de la science-fiction, sans être sa caractéristique propre. Mais voilà. Mais c'est au contraire, c'est très dynamique. Ayavi, est-ce que...
Oui, moi, je voulais juste revenir sur les liens, la notion de lien que je trouvais très intéressant parce que moi, la façon dont je travaille beaucoup, puis c'est évidemment parce que c'est quand j'ai des tables rondes comme ça, tu sais, que j'arrive à avoir un recul sur ce que je fais parce que sinon, je le fais pas en me disant, oh, je vais, bon, c'est avec le recul. Mais ce que je remarque, c'est que les liens que j'établis, que mes personnages vont établir avec d'autres personnages, ça va être, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de Parc Extension, puis Parc Extension, c'est un quartier qui a très mauvaise presse parce que c'est un quartier où il y a beaucoup d'immigrants, bon, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que les liens, ça va être entre le chaman qui est Atikamet, donc qui est autochtone, par exemple, et le marabout qui vient de... C'est des rencontres complètement improbables, comme dans la science-fiction, mais dans un cadre où, politiquement... je veux dire, Parc Extension fait la une des nouvelles aux 3 mois parce que, bon, pour des raisons XY. Donc, c'est vraiment des mondes qui dans la réalité, c'est improbable que ces mondes-là puissent se rencontrer. Puis, le réalisme magique me permet de passer par ces liens-là. Et notamment, un autre lien que j'aime beaucoup, c'est le lien que je fais avec les ancêtres ou les gens qui sont venus avant. Et ce lien-là, je l'avais déjà observé dans Marie Scondé, moi, Tituba, sorcière que j'aime beaucoup, où elle jouait énormément avec ce lien que Tituba avait avec sa grand-mère morte, etc. Donc, bref, juste pour dire que je pense que le lien, qu'il soit familial, qu'il soit amical, peu importe, est vraiment au centre, pour moi, dans la notion de réalisme magique.
Alors, si vous voulez bien, je vais saisir cette occasion de faire le lien avec le public. Sans mauvais jeu de mots, mais c'est-à-dire pour, je pense que c'est le moment où avoir un écho dans la salle de ce que nous, par rapport à ce que nous avons dit, peut s'imposer. Alors, je ne sais pas si la vue me revient petit à petit. Est-ce que le micro circule? Est-ce qu'il y a une question qui a surgi déjà quelque part? Merci à tous les bénévoles qui nous aident.
Merci beaucoup pour la conférence, merci aux intervenants. Lire et apprécier de la science-fiction, ça suppose juste souvent une suspension de l'incrédulité. Donc finalement, une part de crédulité, faire un pas vers cette crédulité. Et du coup, peut-être admettre en fait une croyance, une spiritualité derrière et un partage de quelque chose d'un peu onirique ou d'un peu religieux. On peut peut-être aller jusque-là. Est-ce que c'est pas ça, des fois, qui éloigne un public de la science-fiction ou qui, au contraire, va l'aspirer complètement en recherchant une autre chose que de la religion, mais des croyances qui réenchantent le monde?
Le public de science, qui est non science-fictif, souvent, il passe devant les bouquins et dit « Ah non, ça me fait peur. » Et pourquoi ça vous fait peur? Ça me fait peur.
Alors, la suspension de l'incrédulité, on peut avant d'aller vers une quelconque spiritualité, c'est un pacte fictionnel. Hein. Ce n'est pas propre à la science-fiction. Toute fiction, si on accepte ce principe, entre dans la suspension de l'incrédulité.
La fiction générale, c'est du vrai livre.
Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que même le réalisme suppose une suspension d'incrédulité. Les personnages n'existent pas, ils ne sont pas là. Ou alors on est en train de faire un documentaire. Et donc on n'est plus dans la fiction. Donc là, il n'y a peut-être pas de spécificité spécifique de la science-fiction ou du réalisme magique. Mais si on creuse la question de ce point de vue-là, est-ce que justement, il n'y aurait pas une dimension, peut-être que je reformule, j'espère ne pas trahir, mais une dimension de vertige qui pose problème? C'est-à-dire l'idée qu'il y a le fait de dépasser des limites du convenu dans tous les sens, que ce soit vers le réalisme magique, le fait d'accepter un autre point de vue culturel, une autre manière de voir le monde, ou une manière d'entrer dans un espace où les cadres habituels du réel ne sont plus exactement les bons.
Moi, je trouve que la littérature, elle n'est pas faite pour nous mettre à l'aise tout le temps. Et qu'en fait, il faut être mal à l'aise. En fait, on a vraiment un tabou de tout ce qui est désagréable, de manière générale. Alors que je pense que c'est en fait en se mettant un pas de côté, et en se mettant un peu en danger, en acceptant d'être mal à l'aise, qu'on apprend des choses. Et notamment, c'est comme tu disais, c'est créer des liens avec des gens avec qui, en fait, on n'aurait jamais été en contact normalement. Ça nous apprend énormément sur nous et sur le monde. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont peur de ça. Oui. Qui ont peur d'être mal à l'aise, d'être dérangé, d'être bousculé. Et en fait, ils ont le droit. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je vois ma littérature et ce que j'écris. Quoi. Enfin, moi, je veux qu'on me bouscule, je veux qu'on me dise « Mais regarde, en fait, toute ta vie, tu as vécu dans un monde protégé et le monde, ce n'est pas ça pour tout le monde. » Tu vois. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et je pense que parfois, c'est difficile d'accepter qu'on ne va pas passer un bon moment, même si c'est nécessaire parfois. Je peux comprendre, mais je pense qu'il faut accepter de se mettre en danger et tout le monde n'est pas prêt à faire ça.
La peur du vertige, ça reviendra à la peur de lâcher les prises. Je pense qu'un lecteur qui ne veut pas rentrer dans l'univers de science-fiction parce qu'il a peur du vertige, c'est quelqu'un qui est accroché à ses prises. Quoi. Et donc, il faut effectivement soit mettre une passerelle, encore une fois, soit soit on va se faire refuser. Bon, pourquoi aussi, on n'est pas obligé d'accueillir tous les lecteurs de la Terre. Hein. Il y en a qui ont le droit de ne pas aimer. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais ouais, c'est une peur de sortir de ses schémas, de ses prêt-à-penser, de tout ça, quoi. D'être bousculé dans son confort.
Je voulais juste ajouter que il me semble que s'il y a un lieu où on peut, tu sais, s'il y a un lieu propice à ça, c'est vraiment la littérature de l'imaginaire, où on se lâche complètement. Puis je voulais revenir sur, on avait parlé de la forme du livre, est-ce que c'est un roman ou est-ce que c'est une nouvelle? C'est pas propre au réalisme magique, mais c'est un des échos que j'ai beaucoup reçu des lecteurs, c'était ok, c'est des nouvelles ou c'est un roman? Mais c'est les deux, ou c'est ce que vous voulez, mais ça aussi, ça fait partie du « je suis dans quoi ?». Je pense qu'on est beaucoup dans catégoriser, parce que quand on ne catégorise pas, ben on a peur. C'est quoi qui est devant nous ? Mais c'est ça, c'est un livre.
Donc le plaisir de l'exploration. Est-ce qu'il y a une autre question ?
Je n'ai pas une question, j'ai un commentaire. Je suis ici.
Ah, là.
Ouais, c'est un commentaire, je ne sais pas en tant qu'auteur et autrice si vous savez, mais le scientifique n'a pas perdu complètement sa capacité d'émerveillement. Et quand il regarde parfois ses découvertes, il utilise le mot magique dans les publications scientifiques. Il parle de nombres magiques, d'angles magiques. Et ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas ce qu'il a découvert. Au contraire, il le comprend très bien, mais il s'en émerveille. Donc je pense peut-être que vous seriez intéressé en tant que manipulateur des mots de ce glissement sémantique que le scientifique s'est permis.
Et d'une certaine manière, ça fait écho au sense of wonder, c'est-à-dire l'idée qu'on s'émerveille, mais y compris du monde réel. Bon, merci pour ce commentaire. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ah. Par là ? Juste là. C'est une salle un peu qui demande à ce qu'on court pas mal. J'en profite pour rappeler que nos auteurs et autrices seront disponibles en dédicace. Je précise, parce qu'il faut quand même le dire, que pour Ayavi Lake, malheureusement, les livres n'ont pas pu être obtenus. Donc, n'hésitez pas à saisir toute occasion de lui parler et de tisser des liens avec elle par d'autres moyens. Et vous pouvez les avoir au moins sous forme électronique facilement et les commander. Voilà, donc ils sont tout à fait accessibles, mais malheureusement, il y a eu un problème. Oui.
C'était une interrogation justement par rapport à ce que Ayavi Lake disait au tout début en disant que Marabout, voilà, c'est quelque chose, c'est inscrit dans des sociétés et je me disais, mais finalement les religions, parce qu'on dit pas souvent que c'est magique, mais je suis en train de terminer, un bouquin de Pratchett qui parle des petits dieux où il y a de la magie, enfin c'est magie, enfin on est plutôt dans la fantasy, certes. Mais je ne sais pas comment exprimer ma question. Est-ce qu'il existe, en tout cas, est-ce qu'il y a des auteurs ou est-ce que vous avez travaillé sur, ou d'autres, sur imaginer que les religions qui paraissent souvent très sérieuses quand elles sont traitées, un peu noires aussi des fois, finalement, ça pourrait être de la magie. Qu'est-ce qui différencierait le chaman, je ne sais pas comment on dit, tout ce qui relève de croyances dans la société marabout, etc., d'une croyance dans d'autres systèmes comme les religions, on va dire, occidentales. Alors, et Moyen-Orient.
Il me semble que ça intervient, mais à ce moment-là, quand ça intervient, c'est plutôt, et c'est assez frappant, dans le contexte de l'horreur. Hein. C'est-à-dire que finalement, l'exorciste, qu'est-ce que c'est d'autre que de dire, mais oui, les démons existent, la magie existe, et puis on a besoin d'un prêtre pour... Voilà. Floriane.
Mais ça, c'est une question d'habitude. En fait, c'est que en fait, nous, dans notre vision occidentale, c'est tellement intégré que le catholicisme, c'est la religion, quoi, et que c'est presque devenu la norme, en fin de compte, parce qu'ils sont si nombreux, en fin de compte. Mais c'est une secte. Et en fait, si tu as lu la Bible, je ne sais pas si tu as déjà lu la Bible, mais si tu lis l'Apocalypse selon Saint Jean, c'est le meilleur roman de fantasy écrit depuis 1000 ans. Il y a des dragons à 10 têtes et 11 diadèmes qui arrivent sur Terre, ça crache du feu dans tous les sens, les anges descendent, enfin vraiment, tout est fantastique là-dedans. Et si tu regardes même le fondement de la religion, on te parle de gens qui vont en enfer et au paradis, mais c'est la même chose que la mythologie nordique, qui est considérée comme magique, en fin de compte. Et la résurrection, c'est de la magie. Le Christ qui change l'eau en vin et le pain, c'est de la magie, en fait. C'est juste qu'il y a toute une construction sociale aussi, il y a une espèce de vernis du temps qui passe. Enfin, on pourrait tout à fait faire de la... Enfin, En fait, pour l'instant, personne n'est venu nous dire « Ah, mais moi, le paradis, super. » Ou « L'enfer, pas top. » Mais, enfin, je veux dire, parce qu'on ne sait pas. Mais ça se trouve, ça existe. Enfin, en fait, pourquoi en fait, on ne sait pas.
Mais c'est un paradoxe ce que tu dis, parce que l'Église, elle a finalement abouti au rationalisme, parce qu'elle a extirpé de toute la société tout ce qui était sorcière.
Ouais, mais si tu lis la Bible, elle n'utilise que des principes qui ne sont en fait pas rationnels du tout.
L'Église catholique, elle a passé son temps à contredire ses propres enseignements. Donc, okay.
Mais donc, du coup, on pourrait, mais c'est ce qu'elle raconte, c'est ce qu'elle nous a demandé. On pourrait imaginer. Enfin, réinterpréter ça sous un prisme du réalisme magique totalement.
Oui, on pourrait réinterpréter, mais là...
Parce que ça se trouve, pour des cultures qui ne connaissent pas du tout ça et qui découvrent les croyances chrétiennes, ils vont se dire, mais attends, ils sont complètement fous, ces gens-là. Personne ne va en enfer ou au paradis, personne ne peut changer l'eau en vin, enfin, ça n'existe peut-être pas.
Ou inversement, il y a eu, et ça fait partie de la logique d'évangélisation, me semble-t-il, il y a eu un effet de continuité. Hein, quand on pense à la façon dont un certain nombre de logiques vaudoues se sont constitués, la façon dont à Cuba les saints et saintes et les divinités, Yoruba je crois, mais je suis pas complètement sûr.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui.
Merci. Se sont mêlés tout cela. Il y a, me semble-t-il, bien sûr la possibilité qu'il y ait un flux surnaturel qui soit investi, identifié par rapport à un ensemble de pratiques. Mais effectivement, comme Pierre le disait, il y a aussi une logique de mise à distance du magique comme, disons, efficacité immédiate au profit d'un mystique comme finalité de l'âme et non pas en termes de...
Non, mais ce qui caractérise l'Église, c'est le dogme. C'est une Église dogmatique. Donc là-dessus, la magie n'a rien à faire là-dedans, quoi.
Mais je veux juste, pour répondre peut-être partiellement à madame, c'est que je sais que, mettons, si je prends le chamanisme chez certains peuples autochtones, je pense savoir, je ne veux pas être... Je ne suis pas spécialiste là, mais qu'ils ne se définissent pas comme une religion. Ils ne disent pas que c'est une religion, ça relève plus de la spiritualité. C'est la même chose pour le marabout, qui souvent va être associé à la religion musulmane parce que ça va être quelqu'un qui a un pouvoir religieux, mais qu'on peut voir indépendamment de la religion, ils se définiront pas comme une religion. Ça va être dans la façon de penser mystique ou spirituelle. Je sais pas si on fait une différence, mais pas comme une religion. Je sais pas si je réponds, en tout cas.
On va devoir arrêter là, mais la logique, enfin, une des logiques de la science-fiction, c'est aussi de retrouver, de projeter dans des cultures différentes, enfin, imaginaires, enfin, des situations de ce type. C'est-à-dire de revitaliser la question de la spiritualité. Donc, on en trouverait des dizaines d'exemples du plus neutre au plus engagé, me semble-t-il. Donc c'est un dialogue à continuer. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que l'angle du réalisme magique a peut-être été relativement peu intégré dans un dialogue avec la science-fiction. Mais je pense que ça sera quelque chose à poursuivre au-delà de cette séance. Mais nous allons être obligés de la clore. Et donc je vous remercie pour votre attention. Et je remercie encore une fois nos intervenants et intervenantes que vous pourrez retrouver au fil du festival, en dédicace ou dans d'autres tables rondes. Le festival est encore jeune. Merci et bonne fin de soirée.
ActuSF, les podcasts.